Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks?
No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Schombroli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, nouvelle édition qui se prépare avec l'ami Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Nous sommes repartis avec ce 20e épisode de la saison 6.
Tout à fait, oui.
Bon, on va comme chaque semaine revoir avec toi quelques séries mises en avant sous les projecteurs. Tu les as regardées pour nous dernièrement et tu as un avis à partager sur certaines d'entre elles.
Voilà, on va commencer comme d'habitude avec deux nouveautés et puis une série plus ancienne. Et cette fois-ci, du côté des nouveautés, on va partir en Angleterre. Ça va un petit peu nous changer avec deux séries qui ont plutôt un format court, une petite trentaine de minutes par épisode pour chacune de ces deux séries. La première nous est proposée sur Netflix depuis quelques semaines à peine. C'est la nouvelle série de Ricky Gervais qui s'appelle Afterlife. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil.
Je ne crois pas, non.
Non, c'est une série, me semble-t-il, qui a un petit peu fait parler d'elle, probablement parce que les gens qui suivent Ricky Gervais étaient contents de le retrouver, de retrouver son humour toujours assez grinçant. Et ici, très clairement, on retrouve en plein l'univers de ce comédien. Il s'agit de nous raconter l'histoire d'un homme qui a vécu un deuil relativement récent, il y a quelques mois, le deuil de sa femme, dont il ne se remet pas. Et quelque part, il s'est rendu compte que, étant donné qu'il n'avait plus aucune raison de vivre, et qu'il serait aussi bien mort, ça lui donnait une sorte de super pouvoir. Il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait sans craindre les conséquences, puisque finalement rien de pire ne pouvait lui arriver que ce qui lui était déjà arrivé. Et si vraiment il en avait marre, il pouvait toujours se suicider. Donc tu vois, ça permet de relativiser énormément, mais malgré tout, ça le fait se comporter très très largement comme un gros con, on va dire ça comme ça, vis-à-vis de l'ensemble de son entourage, notamment son patron qui est aussi son beau-frère, donc qui lui aussi, quelque part, a connu une perte importante, puisque c'était sa sœur à lui qui est décédée. Mais voilà, il le traite un petit peu... il en a rien à faire. Ses collègues de bureau, de même. Il est journaliste dans un petit journal régional de son petit patelin à lui. Et donc, ils vont de faits absurdes en faits absurdes. En fait, ils passent d'un habitant à l'autre qui ont des choses absolument inintéressantes à raconter, ou à chaque fois, enfin, c'est absolument ridicule la nouvelle qu'ils veulent mettre en avant. Donc évidemment, c'est l'occasion d'être assez cynique et caustique sur ces personnes et de porter un regard très désabusé sur tout ce qui l'entoure, quoi. j'ai plutôt bien aimé la série, même si je t'avouerai que au bout d'un moment, ça use un petit peu. Le côté, justement, je me comporte comme un gros con en permanence et je tout me paraît sujet à être critiqué de manière assez acerbe. Heureusement, ça évolue quand même. Au bout de 3 épisodes, tu te dis « Oula, si ça doit rester comme ça, malgré tout, tu finis par en avoir marre, quoi. » Je me souviens que j'avais eu la même impression à la lecture de « Voyage au bout de la nuit » où c'était un petit peu aussi... Au bout d'un moment, critiquer, c'est bien. Et même si c'est bien fait, bon, on aimerait quand même que ça mène à quelque chose. Je peux te rassurer, puisque j'ai été au bout de cette courte série... Je ne sais pas du tout d'ailleurs si elle sera renouvelée pour une saison 2. Je dois t'avouer que je ne vois pas bien quel en serait l'intérêt dans ce cas-ci, mais bon, on ne sait jamais. Ça évolue et il y a une vraie conclusion que j'ai trouvée plutôt satisfaisante dans l'esprit vraiment Ricky Gervais. Hein. Ricky Gervais est connu à la fois pour savoir très bien manier le malaise et les remarques acerbes sur le monde qui l'entoure et en même temps avoir un vrai gros cœur d'artichaut, un petit peu limite dégoulinant sur les bons sentiments à certains moments, mais on y est à peu près, mais c'est super bien manié et donc vraiment cette série passe super bien, quoi. Donc voilà, je suis plutôt positive à la sortie de Afterlife que je vous propose donc de découvrir sur Netflix.
Bien, voilà le premier avis de cette soirée.
Voilà, on passe au deuxième, on reste en Angleterre, cette fois-ci on n'est plus dans un petit patelin paumé, on est à Londres, au début de la série on est en Écosse, mais le personnage que l'on suit dans cette série-là qui s'appelle Pure, et qui n'est pas le même Pure que celui d'il y a 2 ans qui nous parlait d'un trafic de drogue fait par une sorte de secte, pas mormon, mais du même genre. Là, c'est le même nom, mais c'est pas du tout le même pitch. Nous avons une héroïne qui, lors d'un grand rassemblement familial autour, je crois, de l'anniversaire de mariage de ses parents, voit toutes ses angoisses les plus intimes remonter à la surface sous forme non seulement d'un dialogue intérieur extrêmement fort, mais surtout d'images extrêmement suggestives, puisque elle semble totalement obsédée par le sexe. Elle en voit partout, tout le temps. Elle arrête pas d'imaginer toutes les personnes qu'elle croise, quelles qu'elles soient, même si ce sont les personnes les plus proches d'elle, ou en tout cas dont il est le plus gênant d'imaginer des situations sexuelles avec elle, mais elle n'arrête pas de voir en flash comme ça des images de toutes ces personnes-là en train de faire des positions suggestives, en train d'être nues, en train de se faire des choses entre eux, etc. Enfin, c'est très très perturbant, et donc elle pète totalement un câble au beau milieu de cette fête, et elle s'enfuit à Londres donc pour vivre dans une forme d'anonymat où elle échappera au minimum à une partie de la pression, puisque c'est en grande partie parce que c'est assez insupportable pour elle d'imaginer ses parents et les amis de ses parents se faire des trucs entre eux qu'elle a vraiment décidé de partir. Et donc, elle se retrouve là, au bon milieu de cette grande ville anonyme. Elle est quand même recueillie par une amie d'école, très très gentille par ailleurs, mais qui n'est absolument pas au courant du problème qui a mené cette amie à venir s'installer à Londres. Et ben, c'est un peu l'occasion pour elle de s'interroger sur ce qui pose problème exactement dans sa tête pour que ça se passe comme ça. Et donc, pendant 6 épisodes, on va suivre son exploration de ses troubles intérieurs, essayer de comprendre ce qu'elle a. Par chance, on apprend relativement vite. Je me souviens plus si c'est au 2e ou au 3e épisode, mais il y en a que 6, hein, de toute façon, pour cette première saison. À nouveau, je ne sais pas du tout s'il y en aura une 2e, je l'espère, mais je l'ignore pour le moment. Donc, on apprend assez vite quand même ce qu'elle a, mais c'est pas pour autant que c'est réglé. Hein. C'est pas parce qu'on a compris ce qu'on avait que pour autant on est capable de le gérer. Et c'est l'occasion de voir comment continuer à vivre malgré tout avec ce problème, puisqu'on ne peut pas le faire disparaître. Je ne veux pas gâcher la surprise, donc je préfère laisser nos auditeurs découvrir par eux-mêmes, mais c'est la première fois que j'entendais parler de ce problème-là en particulier. Je trouvais que c'était particulièrement bien géré, bien amené, bien joué aussi, avec elle va assez vite constituer autour d'elle un petit groupe d'amis qui sont tous assez sympathiques, avec lesquels on peut assez vite se sentir en connexion. Et c'est son petit monde, quoi, finalement, qu'elle réussit à maintenir autour d'elle malgré les gros moments de malaise qu'elle peut vivre assez régulièrement. Oui, j'ai vraiment trouvé cette série très, très fraîche et très intéressante. Et dans la lignée de ce que les Anglais peuvent nous proposer de meilleur dans le genre. Donc vraiment, je le conseille beaucoup. Il s'agit de Pure, donc le Pure UK, et non pas le Pure du Canada qu'on avait connu il y a 2 ans, me semble-t-il. Voilà, voilà.
Voilà pour un coup de cœur supplémentaire.
Oui, et on va terminer avec une dernière série. Cette fois-ci, ça n'est plus une nouveauté, mais c'est une série qui est en train de diffuser sa saison 2 pour le moment sur Showtime. Il s'agit de Smilf, si tu vois ce que
j'en
je veux
vu
dire.
J'en ai vu quelques-uns, oui.
Smilf qui poursuit donc son petit bonhomme de chemin. Bon, c'est pas une série qui a énormément de fans, ou à mon avis qui fera des années et des saisons, parce que elle reste très très confidentielle. Mais moi, j'ai une vraie sympathie pour cette série-là. Et notamment, j'ai trouvé que cette saison 2, en tout cas ce que j'en ai vu jusqu'à présent, j'ai vu 7 épisodes, me semble-t-il. Il y a vraiment des moments super intéressants, des épisodes qui valent la peine, qui valent le détour, notamment en grande partie parce que ce sont... Il y a toute une série de sujets, de problématiques qui n'ont jamais été abordées nulle part ailleurs et qu'on voit abordées tout à coup. Et rien que pour ça, ça vaut la peine, quoi. La seule autre série dont on pourrait se dire qu'elle s'en rapproche un peu, c'est Better Things, qui a beaucoup plus de succès, elle. Mais moi, j'ai vraiment du mal à entrer en connexion avec Better Things, notamment parce que je trouve la relation entre cette mère et ses trois filles absolument insupportable. Si je devais vivre ça, je crois que je préférerais sauter par la fenêtre directement. Et là, mais Frankie Shaw... sur un mode beaucoup plus modeste, un peu moins grandiloquent justement dans les grandes scènes avec qu'on a pu voir dans Better Things entre les filles et la mère. Ici, mais elle a un petit garçon tout simplement, et donc c'est plus l'histoire d'une jeune femme qui galère véritablement beaucoup, non seulement financièrement, puisque c'est pas évident de trouver un job quand on est une très jeune maman, mais aussi vis-à-vis de toutes les problématiques qu'elle peut avoir autour de son corps, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer à ce niveau-là, et au niveau aussi de la sexualité, du désir qu'elle peut provoquer chez les autres, ou de comment se situer vis-à-vis de ses propres désirs, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont traités que je trouve intéressantes. Il y a aussi toutes des populations qui sont montrées, qui sont un petit peu... qui sont mises en avant avec un regard bienveillant qu'on ne voit généralement pas. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà. C'est pas vraiment pas la série qui est une éclate totale. Hein, au contraire. Néanmoins, il y a certains épisodes que je trouve très très réussis. Notamment, il me semble que c'est l'épisode 5 de cette série, ou de cette saison-ci plutôt, la saison 2, où tout l'épisode, en fait, elle est invitée par la nouvelle petite amie de son ex à aller chez le coiffeur avec elle, et elle commence à imaginer ce que ça donnerait, et ça part dans un délire, et j'ai trouvé vraiment cet épisode très réussi. Et dans cette saison 2, elle va beaucoup plus comme ça dans l'imaginaire, dans l'exploration de... grâce à ces scénarios imaginaires, de ses propres angoisses, de ses problématiques. Et c'est très intéressant, et c'est assez original, quoi. Donc voilà, j'ai envie de défendre cette série-là, parce que je sais qu'elle n'est pas beaucoup défendue. Donc, Team Smilf, personnellement, voilà.
D'accord. Bon, ben voilà pour la revue des séries de cette semaine. Si tu le veux bien, on va marquer une pause musicale.
Oui, on va s'écouter Escape de Rupert Holmes, entendu dans It's Always Sunny in Philadelphia.
I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, my lady, I know that sounds kind of mean,
Well, me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad. And though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape. So I waited with high hopes, and she walked in the place. I knew a smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne.
Temps d'aborder le sujet du jour dans Série Folie. Quel est-il, Aurore ?
Aujourd'hui, on va parler d'humour.
L'humour, ok. Oui. Sous toutes ses formes.
Oui, on va essayer de voir ce qui nous fait rire et puis essayer de donner plein d'exemples à travers ce qu'on connaît dans les séries. Donc forcément, je vais surtout parler des comédies, même si en réalité, on pourrait étendre ça à énormément d'autres séries qui peuvent avoir des moments très drôles aussi, même si ce ne sont pas des comédies. On peut penser, je ne sais pas moi, à Dr. House par exemple, il y avait des moments plutôt comiques. On peut penser à L'Arme Fatale, c'est censé aussi avoir beaucoup de comic relief à l'intérieur de sa narration, etc. Donc c'est pas uniquement pour les comédies que c'est valable.
Bien.
Bon.
On t'écoute développer le sujet.
Ceci étant dit, ouais. Donc, finalement, qu'est-ce qui nous fait rire exactement ? C'est là que j'ai commencé à m'interroger, et il me semble que l'humour, c'est un jeu. Et on va voir que c'est un jeu qui peut aborder plein de... qui peut se jouer sur plein de modes différents. Ça peut être des jeux de langage, ça peut être plutôt des jeux avec le corps, ça peut être un jeu avec les codes sociaux, avec nos habitudes et nos mœurs, ça peut même être un jeu avec les lois physiques, hein, tout simplement. Enfin, ça peut être un jeu avec plein de choses, mais en tout cas, c'est un jeu à chaque fois qui vient jouer sur nos attentes. Alors, nos attentes en tant qu'habitude, en tant que normes, en normes sociales ou normes physiques, sur nos usages, sur les stéréotypes aussi. Hein, quand on est dans la fiction, mais forcément, on sait qu'on a derrière nous tout un background de séries qui ont déjà plus ou moins traité certains sujets, certains personnages de manière plus ou moins stéréotypée. Au bout d'un moment, ben, on a forcément des types qui se sont créés et on peut venir jouer là-dessus en justement les déjouant. Sur les genres aussi, les différents genres sériels, etc. Donc c'est un jeu avec nos attentes. Et je dirais qu'il y a trois grandes manières de jouer avec ces attentes. Première manière, c'est à travers la répétition. C'est le comique de répétition. On installe quelque chose d'un petit peu saugrenu. Hein, comme alors un gros exemple qui fait peut-être plus rire grand monde actuellement, mais le Bazinga de Sheldon, c'était un petit truc un peu saugrenu comme ça qui a été utilisé à répétition parce que justement une fois qu'on avait installé cette habitude là, ben on pouvait la ressortir régulièrement et ça créait une sorte de connivence avec les spectateurs qui connaissaient déjà ça, voire qui s'y attendaient. Hein, donc on joue avec nos attentes, comme je l'ai dit. Ça va être aussi à travers la rupture ou carrément la transgression. Alors on peut par exemple imaginer, ben, j'ai parlé de jouer avec les lois physiques. Quand on regarde un dessin animé où on a un personnage qui fonce comme ça droit dans le vide et qui continue à marcher dans le vide comme ça jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est dans le vide et que là, tout à coup, il tombe, ben, clairement, on vient déjouer les lois les plus élémentaires de la physique et c'est cette rupture des habitudes qui va créer, évidemment, le comique. Et puis, on a, à travers l'exagération, on prend quelque chose qui est déjà connu, déjà attendu, et on le grossit de plus en plus pour en faire quelque chose de ridicule ou au minimum dont il y a moyen de rire pour une raison ou pour une autre. On va voir que tous les rires n'ont pas forcément la même fonction, mais voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que l'humour c'est quelque chose qui jouait sur nos attentes, il me semble que la série télévisée, parce que justement elle s'installe dans un temps long, a particulièrement l'occasion, beaucoup plus sans doute que d'autres formes narratives, d'explorer cet humour-là, d'installer l'humour, puisque ben, elle va pouvoir s'amuser à installer des attentes qu'on n'avait pas forcément au départ, mais qui, au bout d'un moment, deviennent aussi naturelles que les lois de la physique ou les lois culturelles dans lesquelles nous sommes baignés depuis notre enfance. Quoi. Le public de telle série est habitué à un certain nombre de codes propres à cette série-là. Et donc, il sera prêt, dès que l'épisode commence, à rire à certains jeux, justement, avec ces codes-là, que ceux qui n'ont jamais vu la série, par contre, ne comprendront absolument pas. Hein. On sait à quel point ça peut être difficile. Et à mon avis, c'est sans doute beaucoup plus difficile pour les comédies que pour les drames en série, de faire rentrer un ami au beau milieu d'une série qui nous plaît depuis très très longtemps. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de convaincre
quelqu'un. Oui, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est compliqué, hein. C'est alors il y a certaines séries qui s'y prêtent peut-être un petit peu plus parce que justement elles essaient peut-être de ne pas aller trop loin dans l'installation d'un univers totalement propre. Je pense à une série comme Friends par exemple. Même si elle instaure son univers, elle reste quand même relativement normale, entre guillemets. Elle continue à jouer principalement sur les codes sociaux que tous les Occidentaux partagent plus ou moins, quoi. On n'est pas dans un trial and error, par exemple, où là, vraiment, il faut connaître l'univers de la série pour comprendre dans quel délire on se trouve. Sinon, je crois que si on arrive au beau milieu de la série sans avoir suivi depuis le début, il y a énormément de choses qui nous échappent totalement, quoi. Alors, à chacun de voir où se trouve la qualité, enfin la série qui semble la plus intéressante. Est-ce celle qui réussit à rester abordable à tout le monde, quel que soit le moment où on l'attrape, entre guillemets, ou au contraire, celle qui va vraiment instaurer des attentes qui lui sont propres. C'est un peu chacun ses goûts, mais en tout cas, on peut au minimum reconnaître à la série cette qualité-là qui va lui permettre peut-être d'aller beaucoup plus loin dans l'humour que d'autres formes qui sont obligées de jouer simplement avec les codes qui sont déjà présents dans la culture dans laquelle nous nous trouvons. Il me semble que, mais comme j'ai pu citer pour Trial and Error, mais ça peut être le cas pour plein d'autres séries qui soit vont jouer sur leur propre code qu'elles ont instauré en un temps plus ou moins long, hein. Trial and Error, finalement, elle n'a connu que 2 saisons, elle n'a pas mis énormément de temps pour justement instaurer tout un univers qui lui était totalement propre. Mais on peut aussi penser que quand on est une série qu'on vient d'arriver, on joue avec les codes que nous, on commence à instaurer, mais on joue aussi avec les codes de toutes les séries qui nous ont précédés et qui font partie du même genre. Une série médicale, ben forcément, va jouer avec les codes de la série médicale, de toutes les séries médicales qui l'ont précédée, etc., etc. Enfin, c'est un peu le cas pour la plupart des séries qui s'intègrent d'ores et déjà dans l'un ou l'autre genre, et donc elles viennent jouer sur ces attentes-là, quoi. Donc il y a toujours dans l'humour une sorte de tension entre la construction progressive d'attentes, ou au minimum le rappel d'un certain nombre d'attentes qui sont présentes dans notre culture ou dans le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions ou que sais-je. Ça peut être toutes sortes d'attentes différentes. Ça peut être des attentes de langage, des attentes dans notre imaginaire aussi. Donc il y a toujours une tension entre ça et puis aussi la nécessité de rupture. Et c'est là que l'humour est toujours quelque chose de socialement très intéressant à observer, puisqu'à la fois, il nous indique finalement où se trouve la normalité à un moment donné, ce qui apparaît comme normal, puisque ben, c'est justement quand on vient rompre ce truc normal que tout à coup, ben, l'humour apparaît, que ça nous paraît tellement saugrenu, entre guillemets, que tout à coup, on va pouvoir en rire, quoi. Ça, c'est important, donc, de repérer ça, en sachant que et du coup, on a à chaque fois dans l'humour une double fonction qui est justement à la fois de nous rappeler quelle est la norme et d'essayer de subvertir, d'essayer d'aller toujours plus loin dans le fait de casser cette norme. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir deux types d'humour différents, je dirais, qui vont se caractériser par la cible qu'ils prennent. La première, ce serait l'humour qui prend pour cible celui qui s'écarte de la norme pour pouvoir en rire. Un exemple typique, parce qu'il a été beaucoup cité ces dernières années, c'est par exemple la Fat Monica dans Friends, hein, le fait que ça nous fasse rire de voir Monica dans un costume de grosse en train de danser ou que sais-je, c'est uniquement parce que... c'est drôle de voir quelqu'un de gros. En gros, on nous rappelle, voilà, c'est pas normal d'être gros, donc c'est marrant quand on regarde quelqu'un être gros. Ça, c'est le premier type d'humour dont on peut avouer, c'est pour ça qu'il est plutôt critiqué actuellement, qu'il a plutôt un effet très conservateur, hein, puisqu'il nous rappelle, voilà, la norme, c'est ça, et tout ce qui s'en écarte, c'est drôle, et on a le droit d'en rire. Et puis, on aurait un deuxième type d'humour qui prend plutôt pour cible la norme elle-même et qui va justement soit la rompre, soit l'exagérer pour en montrer l'absurdité. Essayer de la subvertir d'une manière ou d'une autre. Alors, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est pas parce qu'on fait ça que tout à coup on a réinventé la poudre. Hein. Généralement, si on fait ça, c'est qu'on est juste en train de réinstaurer une nouvelle norme qui peut-être deviendra le nouveau point de conservatisme de demain. Quoi, hein. Mais en tout cas, imaginons par exemple... je prends une série comme Épisode qui va nous présenter les personnages qui composent le monde créatif des séries à Hollywood sous leur aspect le plus dérangeant, en exagérant vraiment leurs traits les moins appréciables. Donc on exagère quelque chose, non pas pour nous dire on se moque d'eux parce que ils sortent de la norme, mais au contraire, cette norme d'Hollywood est risible en elle-même. Et c'est elle qu'il faudrait pouvoir dépasser d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc voilà, deux manières de présenter l'humour différente. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire il y a d'un côté les séries qui seraient uniquement dans un type d'humour conservateur et les séries d'un autre côté les séries qui seraient uniquement du côté subversif. Je crois que c'est plus compliqué que ça et qu'on peut trouver les deux types d'humour dans chaque série. Et d'ailleurs, en fonction de l'époque à laquelle on regarde la série en question, notre regard lui-même aura changé. On voit à quel point ça peut être le cas aujourd'hui avec certaines comédies d'il y a 10, 20, 30 ans qui nous paraissent relativement problématiques aujourd'hui alors qu'elles ne l'étaient pas du tout à l'époque, quoi. Donc voilà. Alors je continue donc en voyant les différentes séries que j'ai pu repérer. Il me semble que on va pouvoir à nouveau les repérer différentes. Différentes manières de se présenter vis-à-vis de l'humour. On va avoir un premier type de série qui va jouer principalement, ou en tout cas beaucoup sur la forme, qui vont être plutôt dans la forme parodique ou au minimum qui vont détourner un genre. Donc on rejoint ce que je disais sur le fait que on a une attente, le genre en lui-même est une attente. Et, créer une attente, le genre policier, le genre hospitalier, le genre romantique, soap opera ou ce genre de choses là. Donc on a une attente à la base et on va jouer justement sur cette attente là en détournant le genre. Et il faut avouer qu'il y en a quand même beaucoup qui vont jouer sur ce modèle là. Alors, soit à un niveau vraiment très basique, comme je l'ai dit, si on prend par exemple une série hospitalière, on pourrait se dire que Scrubs vient jouer sur le genre hospitalier, mais pour y introduire une forme de comédie un peu parodique. Sur le mode policier, on pourrait penser à Brooklyn Nine-Nine. Si on pense plus au genre science-fiction, on va peut-être se tourner davantage du côté de Futurama ou de Rick and Morty, ce genre de série-là. Si on pense aux sitcoms traditionnels qu'on avait dans les années 80, les sitcoms un peu familiales ou avec des amis qui finissaient toujours finalement par être gentils et par apprendre de leurs erreurs, on peut se dire que les séries comme It's Always Sunny in Philadelphia, The Mick ou même Seinfeld viennent un peu à ce niveau-là casser les codes en nous présentant plutôt des personnages affreux qui n'apprennent absolument jamais rien de leurs erreurs. Et puis aussi, on a toutes les séries qui se présentent plutôt comme des parodies de documentaires. Et là aussi, il y en a eu un certain nombre. On peut penser à The Office, on peut penser à Parks and Recreation. À quoi est-ce qu'on peut penser encore Trial and Error ou American Vandal plus récemment, qui vient prendre le genre du docu autour d'un crime à la mode Making a Murderer et qui vient totalement le subvertir de manière particulièrement réussie d'ailleurs, je le répète encore une fois. On peut penser à Wrecked qui vient un petit peu faire la parodie de Lost, etc., etc., etc. Évidemment, il y en aurait encore beaucoup d'autres. Évidemment, il me semble qu'il y a certaines séries et qui sont des modèles de comédie et qui coche un petit peu toutes les cases. On ne peut pas ne pas citer les Simpsons, me semble-t-il, qui vient subvertir totalement l'image bien propre, en tout cas à l'époque où a commencé la série, de la gentille famille américaine de banlieue. Les Simpsons, c'était d'abord ça, c'était une manière d'exploser ce modèle-là. Et puis un petit peu plus tard, là plutôt pour venir se moquer de la manière dont on nous représente l'actualité, les faits de société, etc. On a eu South Park qui continue d'ailleurs à le faire toujours aussi bien. Donc voilà, ça c'est au niveau de la forme. On voit qu'il y a énormément de séries qui vont déjà sur ce point-là venir se présenter comme un détournement de nos attentes au niveau du genre qu'elles adoptent. Deuxième manière de faire de la comédie. Alors le tout peut évidemment se combiner, rien n'est séparé. Ça va être plus sur le fond, sur le sujet qui va être abordée, que ce soit un sujet d'actualité ou de société, ou bien les institutions qui sont représentées, ou un renversement des rôles aussi qui nous est représenté. Là, donc, il s'agit plus de la manière traditionnelle, habituelle de présenter le sujet, ou bien des conventions sociales au niveau d'un mode de vie particulier qui vont être totalement perverties. On peut penser imaginons par exemple, pour commencer, on a le côté extrêmement solennel de la politique américaine à Washington, avec tout le côté plutôt grandiloquent qui pourrait l'entourer. Et puis on a une série comme VIP qui vient nous présenter ce qui se passe dans le bureau de la vice-présidente et qui vient un petit peu totalement détourner tout ça. Donc on a à nouveau rupture au niveau des attentes sociales et politiques sur ce qu'est censé être ce genre de choses. Au niveau de la famille, j'ai dit que les Simpsons, ils venaient pervertir le modèle familial, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé quand même énormément dans les séries. On peut penser à Arrested Development, par exemple. On peut penser The Détour, on peut penser qu'est-ce que j'ai encore d'autre du même genre, The Mick, je l'ai déjà cité. Enfin, il y a quand même pas mal de séries, évidemment South Park encore une fois, il y a pas mal de séries qui viennent remettre en question la famille traditionnelle telle qu'elle nous a été présentée, même éventuellement Modern Family, si vraiment fallait aller de ce côté-là, ou bien The Middle, mais tous les deux sur un mode peut-être un peu gentil, hein. C'est pas exactement aussi trash que The Mick ou The Détour, mais bon, y a quand même une petite volonté à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a remis en question la forme, une fois qu'on a remis en question le fond, on a aussi tous les jeux peut-être un petit peu plus ponctuels qu'on va retrouver à l'intérieur de certaines séries. Il y a beaucoup de séries qui vont nous présenter des jeux de mots, qui vont nous présenter des jeux au niveau des références culturelles internes à la pop culture, etc. Des jeux au niveau du corps des personnages, au niveau de scènes imaginaires, etc. Et là aussi, il y a beaucoup de séries qui vont utiliser ces formes d'humour-là. On peut citer par exemple Scrubs, qui a quand même tout un côté un peu cartoonesque qu'il utilise énormément, justement dans le côté imaginaire. On peut penser au niveau des jeux de mots à Arrested Development, qui va parfois très très loin sur ce mode-là. J'en ai encore souligné plein d'autres. On peut penser à Trial and Error, qui va aussi beaucoup jouer sur les références internes, sur les situations. Si on y réfléchit un petit peu, à l'intérieur de chaque série, mais il y a sa propre manière d'apporter des petits jeux comme ça sur les personnages, sur les situations, sur le langage, une manière de tordre un petit peu la réalité pour venir nous surprendre et nous faire rire, quoi. Si on pense à une situation, par exemple, mais certaines situations dans How I Met Your Mother qui sont particulièrement à nouveau étonnantes, l'histoire de la chèvre dans la salle de bain ou de l'homme nu qui attend les jeunes filles quand elles sortent de la salle de bain, encore une fois me semble-t-il. À chaque fois c'est plus sur la situation là qu'on va se retrouver. Une autre manière encore de faire de l'humour, c'est au niveau des personnages, évidemment. On a énormément de personnages qui vont incarner l'humour et sur lequel va reposer l'humour. Et tous les personnages n'ont pas la même fonction à ce niveau-là. J'ai dit que il y avait trois manières de jouer avec nos attentes, la répétition, la rupture et l'exagération. Mais au niveau des personnages, on pourrait dire qu'il y a les personnages qui vont plutôt jouer dans la répétition, certains personnages qui vont plutôt jouer sur la rupture et certains personnages qui vont plutôt jouer sur l'exagération. Sur la répétition, par exemple, on peut penser à plein de personnages du genre Kramer et sa manière de rentrer toujours dans l'appartement de Jerry Seinfeld de la même manière. On peut penser à Brick dans The Middle qui fait des petits cris à certains moments ou qui va pouvoir dire j'ai menti tout bas après avoir dit un mensonge. On peut penser à Kenny de South Park qui mourait à tous les épisodes dans les premières saisons, etc., etc. Enfin, il y a énormément de moments comme ça où les personnages vont jouer sur la répétition. Évidemment, c'est une manière de créer de la familiarité, de créer de la complicité avec le public, toujours parce qu'on a instauré un univers et un horizon d'attente qui est commun autant aux créateurs de la série qu'aux téléspectateurs. Au niveau de la rupture, eh bien, là, c'est plus sur la familiarité qu'on joue, mais c'est plus sur la surprise. Une fois qu'on a instauré certaines habitudes, ben, il va être beaucoup plus facile de venir les rompre. Alors, on peut penser par exemple à un personnage comme le capitaine dans Brooklyn Nine-Nine qui a un côté extrêmement calme et toujours d'une humeur toujours identique et qui, justement, à certains moments, peut rompre cette humeur et ça va évidemment avoir un effet comique. On peut avoir la même chose avec un personnage comme Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory qui est aussi un personnage relativement stable dans son humeur et qui à certains moments peut avoir une pointe de folie qui va pouvoir nous surprendre. Et enfin, au niveau de l'exagération, là, il me semble qu'on a parfois, souvent même dans les comédies, un personnage en particulier qui va incarner cette exagération, qui sera un personnage un peu bigger than life, qui va toujours trop loin, qui en même temps ne subit jamais totalement les conséquences de ses gestes, qui a une forme un petit peu irréelle, parce que justement, si un personnage comme ça existait dans la réalité, on imagine qu'il s'en prendrait plein la tronche, et là, ils nous paraissent toujours plutôt sympathiques. On peut penser à un Barney Stinson dans How I Met Your Mother, même Phoebe Buffay dans Friends pourrait représenter ça. On peut penser à Kelso dans That 70's Show, à Cartman dans South Park, à Homer dans Les Simpsons, à Kramer, à Sheldon, etc., etc. Ce sont des rôles plutôt carnavalesques, hein. Ils répondent à notre désir de totalement ne suivre que nos envies sans jamais s'occuper d'aucune norme. Et évidemment, c'est une manière de relâcher tous ces désirs qu'on doit contenir en permanence dans la vie réelle, et ça nous permet de mieux accepter justement toutes ces normes dans la vie habituelle. C'est aussi une manière de révéler la norme qui est importante dans la série. Par exemple, le personnage de Barney qui va aller beaucoup trop loin dans sa manière de voir les relations hommes-femmes et le couple, ben c'est le personnage qui révèle à quel point la figure du couple est centrale dans la série How I Met Your Mother. Sheldon montre à quel point l'importance dans The Big Bang Theory, c'est un petit peu de nous dire ben, nous sommes tous un petit peu des geeks, et puis on a cette espèce d'Uber geek qui vient contredire un petit peu tout ça, tout en nous confortant dans la normalité finalement que représenteraient tous les autres geeks en dehors de Sheldon. Même chose pour Kramer. On sait que Seinfeld a vraiment comme point central de remettre en question les normes sociales en montrant à quel point elles peuvent avoir quelque chose de totalement déraisonnable. Et on va avoir Kramer qui va aller à fond dans le côté totalement déraisonnable justement de ces normes sociales en voulant tellement y coller que ça en devient totalement ridicule. Donc voilà, il me semble que les personnages sont super importants aussi pour créer de l'humour dans les séries. Alors, je sais pas s'il me reste un peu, beaucoup de temps, pas du tout. Je dirais deux dernières choses. Alors, la première, c'est que il y a un certain nombre de séries qui vont aussi jouer sur l'inconfort. Et c'est aussi intéressant parce qu'à la fois, mais sur le moment, parfois on se sent pas tout à fait bien, mais ça peut être intéressant parce que ça peut vouloir dire que cet humour-là, justement, a quelque chose d'un petit peu plus subversif encore, vient vraiment nous déranger dans nos évidences, nos habitudes extrêmement bien ancrées. Je pense à une série comme Louis, je pense à The Office, surtout la version anglaise, je pense à une série comme Curb Your Enthusiasm, comme Girls, comme Afterlife, dont j'ai parlé en début d'émission, ou comme VIP éventuellement. Et enfin, évidemment, il y a énormément de séries qui vont se construire sur un univers autoréférentiel, rarement uniquement autoréférentiel, mais enfin, c'est quelque chose qui s'est de plus en plus instauré, non seulement autoréférentiel à la série en elle-même, mais aussi autoréférentiel à l'ensemble de la culture pop dans laquelle elle s'intègre. Évidemment, une série comme The Good Place, une série comme American Vandal, une série comme Trial and Error, comme Rick and Morty, comme Community, comme Silicon Valley, etc., etc., Unbreakable Kimmy Schmidt. Enfin, il y a énormément de séries qui se construisent sur ce modèle-là. Voilà.
Ah ben, pour le coup, tout d'une traite, comme ça. On en a fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec encore un titre musical, peut-être en rapport avec le sujet du jour.
Oui, on va s'écouter Right Here Waiting de Richard Marx, entendu dans The Good Place.
Merci à toi et on te dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Waiting. took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how
for you.